Alors, nous sommes avec Maître Jean-François Gay. C'est la chronique Prendre la route. Jean-François est tellement populaire que les circuits sont tous occupés encore une fois. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un premier appel et nous allons parler à M. Benoît.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Benoît.
J'espère que ça va bien pour vous.
Ça va très bien, merci.
Good. Je me posais une question, là. Les règlements suite... à la distance qu'il faut allouer un vélo à Montréal. En ville, mettons, en banlieue, ça va bien. Mais lorsqu'on est à Montréal et puis que c'est une voie à double sens, tu as des stationnements à chaque côté, tu as un camion devant toi, lui, là, il voit le vélo là, qui s'en vient. Fait que, toi, tu le vois pas. Lui, il se tasse, il n'y a pas d'auto. Toi, quand tu arrives à ton auto, là, puis il y a une auto dans l'autre sens, tu n'as pas de 1,5 mètre à se tasser. Je trouve que ce règlement-là, ça c'est dangereux, ça n'a aucun bon sens. Je vois pas comment qu'on peut appliquer ça. Puis le vélo, il sent encore plus en sécurité, le cycliste, parce que maintenant, il a son 1,5 mètre à lui, là.
Oui, monsieur, vous avez raison. Que voulez-vous? On vit dans une société où on n'arrête pas de passer des règlements. On réglemente, ça fait en sorte que ça complique la vie de tout le monde. Ça, j'en conviens. Concernant les cyclistes.
Ça, oui. C'est dangereux, me semble. C'est inapplicable. Moi, c'est arrivé dernièrement, mon miroir, là, le vélo, il était pas là. Je le voyais pas. Il y avait un camion avant moi. Lui, il s'est tassé parce que, puis là, il a empiété sur la voie, la ligne pleine parce que là, pour laisser l'espace. Mais il y avait pas de voiture, lui, qui s'en venait de son côté. Quand c'est arrivé à mon tour, tout de suite après, là, il y avait une voiture. Moi, je ne pouvais pas me tasser. J'ai mis les freins, puis il a accroché mon miroir. Il n'y a pas de place pour... Je comprends pas comment ça. Il n'y a pas de place.
Oui, mais que vous savez, là, quand il y a un règlement ou pas, là, le cycliste a accroché votre miroir, votre rétroviseur, là.
Ben, c'est plus moi, lui. C'est...
Mais écoutez, faut être prudent. Écoutez, des accidents, ça arrive. Mais cela dit, il fallait quand même que le gouvernement légifère là, par rapport aux distances entre les automobiles puis les cyclistes, puis aussi les piétons. Parce qu'il arrive trop d'accidents. Et il faut tenter... Ça fait en sorte que ça nous responsabilise, ça nous sensibilise à la problématique. Puis il faut faire attention aux cyclistes parce que c'est sûr que des fois, ça peut être fâchant pour les automobilistes. Mais ils sont moins bien protégés que nous. Puis j'en conviens qu'il y a des bons automobilistes comme il y en a des moins bons. C'est pareil pour les cyclistes.
Oui, mais là, on pourra faire une demi-heure là-dessus. Là. C'est une question de comportement, c'est une question d'interprétation des lois, puis tout ça. C'est vrai que bon, le gouvernement, pour toutes sortes de raisons, passe des lois. Puis le problème, c'est que c'est difficilement applicable.
Oui.
Hein, ça, Jean-François a raison pour ça. Mais écoutez, c'est à nous de faire preuve de jugement, tout simplement, et de se rappeler tout le monde que le code de la sécurité routière, la signalisation routière et tout ça, ben elle doit s'appliquer dans les deux cas. Il y a des automobilistes qui se comportent pas très bien et il y a des cyclistes également qui se comportent pas très bien. Alors, c'est malheureusement... Quand on a affaire à des gens qui ne se comportent pas, qui ne respectent pas les règlements, ben malheureusement, les accidents arrivent. Alors, si tout le monde met un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, ben et partage davantage de la route, peut-être qu'il y aura moins de problèmes. Parfait, monsieur. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Nous allons parler maintenant à monsieur James, je crois.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, Jean-François, je viens de m'acheter une Chevrolet Trax 2013. Ça fait approximativement un mois que je l'ai.
Oui.
Et je suis vraiment satisfait parce que je l'ai acheté parce que je travaille sur les chantiers routiers. Et j'avais une Chevrolet Cruze avant. Au début, c'était vraiment désastreux, la fiabilité. elle a eu beaucoup de réparations sous garantie, mais par après, elle était très fiable. Mais mes besoins ont changé. Puis j'ai acheté la Chevrolet Trax. Moi, je l'aime bien jusqu'à date. Elle est manuelle 6 vitesses, 1.4 turbo et le groupe électrique. Mais bon, je l'aime bien gros, mais je veux avoir votre humble avis de ce véhicule-là, que ça soit bon ou mauvais. Là, je suis vraiment curieux de savoir votre avis.
Ben concernant, c'est sûr, si on oublie, admettons, la fiabilité et ces choses-là, je vous dirais, moi, c'est un véhicule qui est très logeable. Pour son format, c'est un véhicule avec des grandes portières, que ce soit en largeur ou en hauteur. C'est facile de s'installer au volant puis de d'en ressortir. Aussi, le niveau du plafonnier, le plafond était très élevé. Cela dit, vous avez acheté un véhicule qui a beaucoup de kilométrage ou?
Non, je l'ai acheté, elle avait 80 000 km et elle venait avec une garantie 3 ans, 60 000 kilos. Et ça venait avec un 3 ans d'assistance routière gratuitement avec. Côté moteur, j'ai pas eu de problème avec ma Cruze, fait que c'est pour ça que ça m'a encouragé. C'était vraiment tout le tour de la mécanique que ça brisait, là, c'est ma Cruze, mais
sauf le moteur. La Cruze, ouais. Le moteur allait bien, sauf peut-être d'autres bidules au niveau de l'électronique.
Oui, ben, dans le fond, la transmission a été remplacée. Le bearing de clutch, il a fallu qu'on le fasse remplacer sous garantie. Les joints de cardan ont été changés. C'est vraiment tout le tour du moteur.
Quelle année?
C'était une 2012.
OK. Ouais, c'est sûr, c'est une année qui a eu beaucoup de problèmes. Mais au niveau du Trax, monsieur, moi, je vous dirais, l'important, là, vous savez, dans la vie, là, au niveau des véhicules, ces années-là, notamment chez GM, c'est des fois, c'est un peu une partie de poker. On peut, à l'occasion, tomber sur un citron, comme on dit. Mais là, il semble que votre voiture, votre Trax va très bien. Donc, faut espérer que ça va continuer. Puis, faites faire un entretien régulier.
Je suis vraiment minutieux côté entretien. Parce que la Trax voit beaucoup de chantiers routiers. Alors, je l'ai acheté pour ça parce que la Cruze était vraiment trop basse. Et j'accrochais partout et ça en venait vraiment fatigant. Fait que j'apprécie vraiment le plus haut garde d'eau sol. Et la consommation, j'ai vraiment été impressionné par la consommation. Ça consomme à peine plus que ma Cruze. Alors, je suis vraiment, vraiment content à ce côté-là. C'est juste que je voulais avoir votre avis à propos de ça, là, en général.
Ben, c'est un bon petit véhicule économique. Là-dessus, vous avez raison. Bon, fait qu'on vous souhaite une belle soirée, monsieur. Merci.
Merci beaucoup, monsieur.
Bye. Enfin, monsieur, merci d'avoir téléphoné. Monsieur était au travail, probablement. On va retrouver maintenant monsieur Régent.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Régent.
Une petite question, Jean-François.
Oui.
Comment ça se fait qu'on ne retrouve pas de ceinture de sécurité dans les autobus? Je pense à l'accident qui a eu en Ontario, l'autobus qui transportait une équipe de hockey.
Oui.
Il y a eu plusieurs morts. L'autobus a foncé dans une van. Un camion. S'il y avait eu des ceintures de sécurité, il n'y aurait peut-être pas eu de mort.
Bien, là-dessus, je peux pas dire que vous n'avez pas raison, mais pourquoi qu'il n'y en a pas? Écoutez, moi, je me suis jamais penché sur cette problématique-là. Pourquoi qu'il n'y en a pas non plus dans les trains, qu'il n'y en a pas non plus dans le métro? Faut dire aussi que souvent, si admettons, il faut que les gens évacuent, parce que un autobus, là, il peut avoir deux situations. Il peut avoir, comme vous dites, une collision où les gens peuvent être projetés les uns contre les autres. Dans un autre cas, c'est pas pour rien aussi qu'il y a des sorties de secours dans un autobus. Il y a une porte à l'arrière, il y a aussi des fenêtres latérales qui sont des portes de secours parce que quand il faut sortir, il faut sortir. Donc, je pense que ils ont probablement que le gouvernement, pis c'est partout dans le monde, là. Il y a pas beaucoup de, à ma connaissance, il y a pas de pays où on va avoir des ceintures dans les autobus, là. Ben ça dépend, monsieur. Parce que des fois, il peut y avoir de la panique. Ça peut être des enfants qui sont attachés. Je sais pas, moi, un autobus là tombe dans un cours d'eau, par exemple. Il y a des gens qui pourront pas se détacher. Puis les autres, ben souvent, ils vont pas. Il y a une raison à ça. Pour la connaître, là.
Mais c'est vrai que c'est pas évident quand même. Puis la question se pose. À bord des avions, il y a des ceintures de sécurité, puis un peu partout. Puis bon. Alors, pourquoi, effectivement, il n'y en a pas dans les transports publics, si on peut dire? Ça, c'est un petit peu étonnant. Là,
mais il y a une autre affaire, monsieur. Regardez aussi, si on regarde les autobus, il n'y a pas non plus d'appui-tête. Habituellement, les autobus scolaires, là, je ne parle pas des autobus faits des longues distances, là, des autobus de luxe, il n'y a pas d'appui-tête. Puis il faut aussi comment faire aussi pour boulonner des ceintures. Vous parlez d'une ceinture à... juste au bas du ventre, là, dans les avions?
Ça, c'est le minimum, là.
Ouais.
Même s'il n'y a pas d'appui-tête, tu le sais en avant de nous autres. S'il y avait une ceinture, là, on aurait pu.
Si quelqu'un connaît la réponse, peut-être un propriétaire de flotte d'autobus scolaire, tu vois, peut-être connaît la réponse.
Remarquez qu'aujourd'hui, c'est plus sécuritaire qu'avant. Il y a davantage de coussins, si on peut dire, des coussinets, autrement dit. Là.
Ouais.
Parce que moi, je me souviens d'une époque où on devait freiner brusquement, ben, on pouvait se péter la gueule sur le banc d'avant de nous, hein, sur le dossier d'avant de nous.
Ouais.
Alors, il y a eu amélioration, mais non, monsieur, c'est une bonne
question. Se pose.
Malheureusement, on peut pas y répondre.
On n'a pas la réponse.
Il faudrait parler à quelqu'un du ministère de je sais pas quoi.
Je sais pas si les actuels, ça va être...
On ne sait jamais. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous envoyer de l'information. Alors, si ce n'est pas cette nuit, on pourra vous en parler la semaine prochaine.
Ben, il va sûrement avoir, Jacques, si tu peux me permettre, il va sûrement avoir une enquête d'un coroner là, concernant l'accident d'autobus avec l'équipe d'hockey, junior que M. parle.
Oui, ils vont peut-être faire ce genre de suggestions.
Peut-être qu'il va y avoir des conclusions qui vont sortir.
On verra, des recommandations.
Des recommandations.
On va parler maintenant, un dernier appel rapidement, est-ce que c'est Rachel?
Oui, bonjour à vous.
Bonjour Rachel, on vous écoute.
Monsieur Gay, j'ai un dilemme. Ma fille se cherche un petit véhicule, soit le Honda CR-V, le Subaru Crosstrek ou le Toyota RAV4. Sauf qu'elle mesure 5 pieds, fait que là, son auto, elle n'en veut plus. Fait que le conseil, parce qu'elle fait occasionnellement du camping, Côte-Nord à l'occasion, elle veut un 4-pattes, coffre arrière logeable et accessible pour une petite 5 pieds 1. Lequel que vous prendriez?
Ben, c'est sûr.
J'aime bien le Subaru. Là.
C'est sûr, moi, j'aime bien le Subaru aussi. Mais le Subaru, dans une classe à part par rapport aux deux autres, c'est qu'il est plus petit que le CR-V. Parce que le Crosstrek, il rivalise davantage avec le HR-V chez Honda ou le CHR chez Toyota. Parce que là, le vrai rival du Honda puis de Toyota chez Subaru, ça serait le Forester. Le Subaru Forester au niveau des dimensions. Au niveau du prix.
Ouais. Côté force, je veux dire, c'est pour monter sa côte nord, il faut quand même qu'elle puisse avancer un peu.
Oui, bien, les trois véhicules ont des moteurs suffisamment puissants pour aller sa côte nord, comme vous dites, pour aller en montagne. Ouais. C'est sûr que le meilleur des trois dans la neige.
Alors, rapidement, le meilleur des trois, Jean-François.
Mon premier choix serait le Crosstrek à cause de l'attraction intégrale. Mais cela dit, au niveau du confort puis la dimension du véhicule, ça serait le CR-V.
Le CR-V,
Parfait, madame. On doit merci beaucoup. Alors, on doit s'arrêter, malheureusement. Alors, Maître Gay, merci bien. Bon retour à la maison. Et j'espère qu'on vous a bien entendu partout au Québec cette nuit. Et on se reparle la semaine prochaine.
Fabi.
Oui, bonsoir.
Pour parler en direct à Jacques Fabi de Montréal.
514-790-0224.
Sans frais.
1-800-667-5241.
Fabi, la nuit.